Cours de philosophie critique par Père Philippe à Saint-Jodard, le 12 février 1988.
On m'a demandé, avant de continuer le cours, de préciser ce que représente l'eidos, la forme au niveau artistique. Comme toujours, selon l'ordre génétique, c'est toujours dans l'ordre artistique que nous connaissons le mieux, du moins en premier lieu, ce qu'est la forme. L'eidos artistique implique toujours un symbolisme. C'est peut-être ça qui la caractérise le mieux. C'est une connaissance symbolique. La connaissance symbolique est première pour nous. Et elle est ultime. Ultime au plan mystique. Mais la forme, l'eidos artistique, qui est dans la connaissance artistique, qui naît dans l'inspiration, elle est mesurée par l'inspiration. Elle n'a pas d'objet extrinsèque à elle. C'est en ce sens-là qu'elle est symbolique, vous voyez. Elle est à elle-même son propre objet. Elle est à elle-même intelligible. Elle n'existe que dans en tant que connue. Elle n'existe pas avant. Il y a un primat de la pensée dans le monde artistique, il ne faut jamais oublier. C'est l'artiste inspiré qui mesure de son œuvre. Vous voyez, quand on dit fameuse affirmation dans la philosophie grecque, l'homme est mesure de toute chose. L'artiste est mesure de toutes ses œuvres. Parce que l'affirmation l'homme est mesure de toute chose, vous comprenez que c'est un petit orgueil humain de dire je suis mesure de toute chose, donc je suis mesure de vous. Et vous êtes mesure de moi, alors je ne sais pas comment on va faire. C'est comme ça qu'on lutte l'un contre l'autre, parce qu'alors on veut tout le temps être premier. C'est très curieux, mais c'est la naissance de l'orgueil, ça. L'homme est mesure de toute chose. Donc je suis un homme, et je suis mesure de toutes les autres. Alors parce que je suis plus âgé que vous, je suis mesure de vous. Vous êtes mes petits, derrière. Et alors vous pouvez dire, moi je suis mesure de toute chose, parce que ce n'est qu'au moment où j'atteins mon sommet que je serai mesure de toute chose. Et c'est vrai au point de vue artistique. Dans la mesure où l'artiste domine son œuvre, il est mesure de toute chose. Ça c'est l'eidos. L'eidos est cause exemplaire. Et la cause exemplaire est une cause intentionnelle. C'est-à-dire, elle est pensée. C'est le propre de la cause exemplaire. Elle est pensée. Elle est pensée avant d'exister. Dans l'eidos artistique, la pensée est première. La pensée humaine. L'eidos, au niveau physique, c'est ce qui fonde la quidité, le toti en einein, ce qui fonde l'intelligibilité, la réalité. La réalité porte en elle-même sa propre intelligibilité. On dira dans un jugement de sagesse, toute réalité a été pensée par la sagesse de Dieu. Vous êtes le reflet d'une pensée de Dieu. Ce qu'il y a de meilleur en vous. Ce qu'il y a de plus vrai en vous. C'est ce qu'on appellera, en scolastique, le vrai ontologique. Nous allons le voir tout à l'heure. c'est que chaque réalité possède son intelligibilité. Vous voyez, un savant, un biologiste qui étudie le vivant, qui étudie l'homme vivant, s'aperçoit de la complexité prodigieuse du vivant. Comment pour l'homme, il y a le cerveau. Et que le cerveau, c'est la complexité ultime du vivant. Un petit oiseau, c'est pas grand comme cerveau. Hein. Tandis que pour l'homme, le développement de la vie biologique arrive au cerveau dans une complexité énorme. Et en même temps, dans une très grande unité. Cette complexité, cette unité, c'est l'intelligibilité que je porte en moi. Et j'ai été pensé par Dieu. Je suis objet de contemplation de Dieu. Évidemment, Dieu, c'est l'artiste dans sa sagesse qui m'a fait. Alors, par rapport à Dieu, je suis une œuvre d'art. Plus ou moins bien réussie, mais je suis une œuvre d'art conçue dans le péché, comme il était dit dans le psaume tout à l'heure. N'est-ce pas? Conçue dans le péché. Faut jamais l'oublier. Donc cette œuvre d'art est tombée dans de la boue. Elle a été réalisée dans de la boue. Et on s'en aperçoit. Jusqu'à la fin de sa vie, on s'apercevra qu'il y a un petit goût de boue. Mais elle est quand même conçue par Dieu. Donc il y a en elle son intelligibilité. Ça, c'est une vision de sagesse. Et le péché, c'est une vision du théologien. Confondons pas. En philosophie, je ne peux pas dire que j'ai été conçu dans le péché. C'est le croyant qui dit ça. En philosophie, je peux dire, oui, ce chef-d'œuvre, il y a pas mal de fêlures. Et ces fêlures, on s'en aperçoit. C'est peut-être un très beau cristal, mais un cristal un peu fêlé. Vous voyez, c'est pour ça que le philosophe parlera de fêlures métaphysiques. C'est pas seulement des distinctions, mais c'est des fêlures. Jusque dans l'état dans lequel on est. Donc, l'eidos, au niveau de la philosophie de la nature, c'est l'acuité. C'est plus exact, le fondement de l'acuité. C'est ce par quoi je suis intelligible. Le vrai ontologique. Ces deux eidos sont distinctes, hein, faut bien les comprendre. Et la morphée, la forme qui détermine, qui spécifie la matière, l'âme. L'âme est morphée et l'âme est eidos. En tant que vous la comprenez, elle est eidos. Elle a son intelligibilité propre. En tant qu'elle informe le corps, elle est morphée. Vous voyez bien la distinction entre les deux. Et vous voyez, ce qui est très curieux, c'est que la forme est d'abord donnée comme eidos. Et ça, ça fait comprendre tout le platonisme. Tout Platon reste sur l'eidos. Et Aristote donne quelque chose de nouveau en disant « morphée ». Ça, c'est la découverte d'Aristote. Chercher le mot « morphée » dans Platon, je sais pas, je vais pas regarder l'enquête, il faudrait regarder. C'est un petit lexique platonicien. À quel moment apparaît la morphée ? Je sais même pas si ça apparaît. Et si ça apparaît pas, ce serait très intéressant de voir comment Aristote prend morphée. Toujours intéressant les mots, vous voyez ? La naissance du mot. Est-ce que c'est Aristote qui a... Je crois que c'est Aristote qui a fait le jumelage. Morphée et eidos. La détermination. Et la détermination est commune à la morphée et à l'eidos. Et l'une et l'autre sont causes formelles, causes selon la forme. Mais l'eidos est cause selon la forme dans l'intelligence. Ou en vue de la connaissance. Tandis que morphée est cause selon la forme dans la réalité physique. Oui. Ah, ça dépend. Je n'oserais pas dire forme intentionnelle. Elle est forme intentionnelle chez l'artiste. Vous voyez? Est-elle forme intentionnelle quand Aristote dit morphé eidos? Je crois qu'il exprime là le fondement de l'intentionnalité. En philosophie de la nature, l'eidos s'identifie à la morphée, mais exprime comment la morphée possède son intelligence propre. Et donc, possède le contenu même de l'acuité. Et l'acuité, ce sera ce qui est défini. Vous voyez? Parce qu'autrement, vous transportez en philosophie de la nature l'intelligibilité de l'eidos artistique, et alors vous continuez de dire l'homme est mesure de toute chose. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y avait encore comme troisième aspect? Oui. La ratio est aussi fondement, mais au-delà de l'acuité. Oh, c'est très très complexe. Ratio exprime le fondement de toutes les notions analogiques, de tous les concepts analogiques. Vous parlerez, vous voyez, vous parlerez de la ratio de la bonté. Vous ne direz pas l'acuité de la bonté. Tandis que vous direz l'acuité de l'homme. Et vous direz peu la ratio de l'homme. Oui. C'est la ratio est un terme. C'est la ratio, c'est le logos. Hein. C'est le logos grec, traduit par saint Thomas et par Albert le Grand, ratio. Là, vous direz ratio boni. Équidité, c'est la ratio d'un genre, d'une espèce, d'une nature. Vous voyez? L'acuité, c'est ce qui est capable d'être défini. Ce qui est capable d'être défini. Et alors, vous avez ratio, et vous aurez eidos. Qui font l'acuité. Vous voyez? Mais Eidos est premièrement génétiquement dans mon esprit. C'est là ce que vous dites, hein? Dans mon esprit. Mais je transpose Eidos en philosophie de la nature et je ne dirai pas que Eidos à ce moment-là, c'est ce qui est conçu. Vous voyez? Je dirais qu'Aïdos fonde l'intelligibilité du monde physique. La forme, en tant qu'elle est capable d'être appréhendée, c'est l'Aïdos. En tant qu'appréhendée, c'est votre concept. Vous voyez? C'est votre concept. Vous avez une notion de la forme. Vous avez une notion de. En tant qu'appréhendée, c'est votre concept. Vous voyez? Et c'est pour ça que, au niveau spéculatif, vous distinguez concept et idée. Idée, eidos, c'est au point de vue artistique. Et Descartes a confondu les deux. L'idée de Descartes, c'est le concept. Donc il y a une confusion entre l'ordre spéculatif et l'ordre pratique. Dans l'ordre pratique, l'idée est mesure, c'est l'eidos. C'est du reste très curieux que le mot idée, c'est eidos. C'est pour ça que le français, si vous preniez idée, vous voyez, je comprends, quand vous dites idée, vous voyez, c'est quelque chose de conçu. Et c'est quelque chose de conçu qui n'est vrai que pour l'artiste. Tandis que quand vous regardez une réalité, vous dites sa forme, son eidos, pas son idée. Le chien ne transporte pas avec lui son idée. Il est trop malin. Il se cache. C'est moi qui ai l'idée du chien. Parce qu'il y a l'eidos dans le chien. il y a une forme dans le chien. Et que dans la mesure où j'explicite sa forme en la connaissant, je parle de l'eidos. Et la morphée, c'est en tant qu'elle est. Qu'elle est dans la réalité matérielle. Vous voyez, font ces les deux phases de la détermination, si vous voulez. La détermination qui informe, la détermination qui spécifie l'intelligence. Oui, toujours, toujours. C'est pour ça qu'elle n'est pas, qu'il n'y a pas d'objet. Et qu'elle est symbolique.
Tandis que dans la philosophie, on voit que l'aide porte sur la réalité.
C'est la réalité.
C'est-à-dire que la réalité.
Toujours. La réalité, tout à fait. Qui détermine ma pensée.
Alors, dans le niveau artistique, l'objet qui est le possible.
Tout à fait. C'est pour ça que dans la connaissance spéculative, la réalité est première et la pensée est seconde. Tandis que dans la réalité artistique, la pensée est première et l'œuvre est seconde. Vous voyez? Il y a une inversion entre pensée et réalité. Dans le domaine artistique, la pensée est avant l'œuvre. Dans le domaine de la connaissance spéculative, la réalité est avant la pensée. Et Descartes a fait la confusion des deux. Et nous avons beaucoup de peine à dépasser Descartes. Que quoi, le, pardon.
Oui.
Tout à fait. Grâce à l'abstraction, j'abstrais l'eidos de la matière pour avoir le concept universel. Tandis que l'eidos dans la réalité est toujours singulière. Et mon eidos artistique est cause de la réalité, cause exemplaire, et donc possède une certaine universalité. Parce que l'eidos artistique est toujours particulière. Un artiste ne pense pas universellement. C'est pour ça que je dis que c'est une forme symbolique. Une forme symbolique a toujours un caractère singulier. Mais un singulier très particulier. Alors, ensuite, l'eidos du mathématicien. Alors, voyez, le mathématicien, c'est ça qui est très curieux. Lisez l'article du père Gérard Deslauriers dans la revue, je ne sais pas si on l'a ici, parce que je ne sais pas si on a la revue, revue des sciences philosophiques et théologiques, la respecter, comme on disait, la respecter, revue des sciences philosophiques et théologiques, c'est revue du Saulchoir. Et le père Gérard Deslauriers, c'était en... Ça devait être, je ne sais plus en quelle année. C'est vieux. Dans 50, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a 30 ans, oui, oui, largement, peut-être 40. Où le père Gérard Deslauriers, qui était un matheux, pur, normal, math, il disait avec mépris, polytechnicien. Polytechnicien, pour le matheux, ce sont des techniciens. C'est pas des matheux purs. C'est pas les maths dans toute leur pureté. Les maths dans toute leur pureté. Quand il faisait sa thèse, parce qu'il l'a fait étant dominicain, il avait dans sa chambre un petit tableau. Et alors, j'aimais beaucoup d'aller le voir parce que c'est quand même quelqu'un qui pensait avec. Une profondeur souvent difficile à comprendre, du reste, mais une profondeur grande. Alors, quand tu fais sa thèse, je dis, votre thèse, qu'est-ce qu'il la comprendra? Peut-être deux ou trois dans le monde. Il disait ça très sérieux, avec une très grande humilité. Peut-être deux ou trois. Mais c'est comme ça. Alors, souvent, on avait les cours qui se suivaient. Au début de l'année, je le rencontre, il avait ses premiers cours, donc au mois d'octobre, début, fin septembre, début octobre. Je dis alors, les étudiants, ça va? Ils ont l'air d'être intelligents? Pas là, il a l'air de comprendre grand-chose. C'est parce que, qu'est-ce que vous avez fait comme cours? Ben oui, l'année dernière, au mois de juillet, je n'avais pas terminé, alors j'ai continué. Et là, je dis, mais vous oubliez pas qu'il y a la moitié des étudiants qui ne sont plus les mêmes. Oh, Dieu! Oui, c'était tout à fait le matheux. Il est dans son abstraction mathématique. C'est lui qui arrivait toujours en dernier lieu à l'église, à la chapelle. Alors un jour, je lui ai dit, mais comment se fait-il que vous arrivez toujours en dernier lieu? J'ai calculé le temps exact, parce qu'on sonnait 5 minutes avant. Hein. J'ai calculé le temps exact qu'il y a de ma cellule, qui était à l'extrémité du couvent, au cœur. Je pars juste. Je dis, mais Père Gras, si tout le monde faisait ça, voyez, quel cafouille dans l'entrée du cœur, qu'il arrivait comme un bolide. Il a dit, ah, j'ai pas pensé qu'on était nombreux. Et c'était tout le temps comme ça. C'était très extraordinaire. C'est pour ça que je crois qu'il n'est jamais entré en métaphysique. C'était une méta-mathématique. C'est très intéressant pour comprendre ce que c'était que la mathématique. Vous voyez, le premier génétique devenait le premier détermination. C'est une méta-mathématique. C'est un domaine des essences. Des possibles. Les possibles mathématiques, pas le possible artistique. Vous voyez, alors c'est là la différence. Il y a le possible artistique, et puis il y a le possible matheux du mathématicien. Le mathématicien vit dans le domaine des possibles. Ce n'est pas les réalités existantes, c'est les possibles. Mais c'est un possible mathématique. Et l'eidos mathématique, le concept mathématique, vous voyez, l'eidos mathématique, qui s'identifie avec le concept. Puisque le mathématicien, l'être mathématique n'existe que dans l'esprit du mathématicien. L'esprit, il existe fondamentalement dans le réel, mais il n'existe que dans l'esprit mathématicien. C'est pour ça qu'un matheux est si facilement idéaliste, comme un artiste, mais de façon totalement différente. Et je crois que c'est les deux grandes formes d'idéalisme. Un idéalisme méta-artistique, un idéalisme méta-mathématique. On fait du possible le réel. Et le possible devient le réel du mathématicien. Alors, l'eidos mathématique, qui est un peu cause exemplaire aussi pour le mathématicien, comme pour l'artiste, l'eidos mathématique a la différence de l'eidos artistique. L'eidos artistique est basé sur la qualité. L'eidos mathématique est basé sur la quantité, le mesurable, sur les sensibles communs. Les sensibles propres tombent. Et même dans les sensibles communs, il y a abstraction de tout le domaine sensible. Le mathématicien fait abstraction de tout le domaine sensible et regarde le possible à travers le domaine du divisible. Le divisible étant le point de vue quantitatif. Et c'est pour ça que, pour le matheux, l'eidos est relation. L'eidos est proportion. Vous voyez, toujours. C'est pas simple. L'être mathématique n'est pas simple. Il est toujours divisible. Donc la simplicité ne peut pas être atteinte par les mathématiciens. Il y a un semblant de simplicité. Mais il n'y a pas la simplicité au sens absolu. L'artiste, le matheux et la philosophie de la nature. Bon, pas d'autres questions. Nous allons maintenant continuer de voir le point de vue de la vérité. Je vous disais la dernière fois, et c'est très important ça, pour nous, de comprendre la diversité des jugements, étant donné que la vérité apparaît comme qualifiant notre énonciation, comme qualifiant notre jugement. Il faudra du reste préciser si la qualité qualifie l'énonciation ou le jugement, parce que ce n'est pas la même chose. Alors c'est intéressant de voir de fait les deux aspects, de voir que la vérité, c'est propre au domaine du jugement. Le jugement est porteur de vérité. Alors que l'appréhension n'est pas du tout porteuse de vérité. Il n'y a pas de vérité dans l'appréhension. Parce que l'appréhension demeure dans le domaine des possibles. Et tant que le domaine du possible, il n'y a pas de vérité. Le domaine des possibles est au-delà même du principe de non-contradiction. C'est là que l'artiste et que le metteur aiment de dominer. Il domine le principe de non-contradiction, le domaine du possible. Donc, le jugement le plus simple, ceci est. Et c'est à partir de là que nous avons découvert ce que c'est que le jugement, l'énonciation du nom et du verbe, et le lien entre les deux. Et que, parce que c'est par le verbe que j'atteins le nom, quand je dis ceci est, je comprends comment, dès que je juge, je forme au-dedans de moi un nouveau concept complexe qui est l'énonciation. Ceci est. Quand vous dites ceci, Pierre est intelligent. C'est la même chose. Alors, c'est ça. En logique, on dira que est copule. C'est-à-dire que est fait le lien. Et vous comprenez qu'à ce moment-là, il joue plus très bien son rôle de verbe. En réalité, il faut voir que est joue le rôle. C'est le verbe qui permet d'unir Pierre et intelligent. Pierre existe. Et parce qu'il existe, il est capable d'être intelligent. Oui, bien. Si Pierre était d'une façon abstraite, on peut rien dire. Mais quand dit Pierre est intelligent, alors je peux considérer logiquement est comme une copule. Et ça, c'est très dangereux. À ce moment-là, je ne vois plus le rôle de est dans toute sa force. Donc, je dis Pierre est intelligent. Il y a une énonciation. J'énie le nom et l'attribut par le verbe. Le nom, le verbe, l'attribut. Quand je dis Pierre est intelligent, je pourrais dire Pierre pense. Pierre intellige. C'est la même chose. La différence, c'est que là, je fais du verbe un attribut distinct de est. Tout verbe peut se couper en deux en mettant est et l'attribut. Pierre marche. Pierre est marchand. En français, ça exprime quelque chose de particulier. Quand je dis Pierre est marchand. Mais Pierre marche. Pierre travaille. Pierre est travaillant. Et dans cet état, vous voyez, il participe. Dans cet état qu'il travaille. Alors, je coupe, je scinde le verbe en deux. C'est très, très curieux, ça. Ça fait bien comprendre. Ces trois aspects, le nom, le verbe et l'attribut. Voyez? Et ça, c'est l'énonciation. Eh bien, ça, c'est l'analyse que je fais du jugement. Je vois qu'il y a quelque chose que je forme en moi, qui est mon concept complexe, formé en moi. Et je suis capable de le dépasser en disant, Pierre est intelligent et c'est vrai. Ce que je vous dis. Ceci est, et c'est vrai, ceci est. Qu'est-ce que vous faites quand vous dites ça? Et vous faites ça quand on vous dira, vous dites que Pierre est intelligent, mais pas du tout, il n'est pas intelligent. Vous voyez, les discussions. Mais non, il est complètement idiot. Vous dites, mais pas du tout, il est intelligent, n'avez pas vu. De temps en temps, il y a une petite lumière intellectuelle chez lui. La plupart du temps, il est somnolent. Il a été piqué par la mouche tsetse, du sommeil, il est somnolent. On attend qu'il dégringole, mais de temps en temps, il y a une petite lueur. Une petite lueur. Donc, il est encore intelligent. Et ce que je vous dis est vrai. Je l'ai constaté. Quand vous dites ça, voyez ce que vous faites. En parlant, vous communiquez ce que vous pensez. L'énonciation, ce que vous pensez. il y a l'énonciation. Et puis vous êtes capable de dépasser ce que vous dites et de rejoindre la réalité pour dire « et c'est vrai ». Quand vous dites « c'est vrai », vous ne regardez pas seulement « Pierre est intelligent » par rapport à vous qui énoncez ça, mais vous regardez cette énonciation en fonction de la réalité « Pierre » qui existe en dehors de vous et qui mesure votre énonciation. Ça n'a l'air de rien, mais c'est ça qui est très intéressant à voir. Réfléchissez sur ce fait. Pierre est intelligent. Puis je vous dis que Pierre est intelligent, et c'est vrai. Et même dans le langage, on dit « et c'est vrai ». Quand vous dites ça, qu'est-ce que vous faites? Vous vérifiez vous-même, vous justifiez vous-même ce que vous dites. Et vous le justifiez comment? En revenant à la réalité. Et en voyant que ce que vous dites est mesuré par la réalité. Donc la réalité est mesure. Et là, vous êtes en face de quelque chose de mesuré. Et c'est au moment où ce qui est mesuré est adéquat à la mesure que vous dites que c'est vrai. Donc la vérité, c'est bien cette adéquation de ce que vous énoncez par rapport à la réalité énoncée. Si vous voulez bien préciser ce que c'est que la vérité. Parce que quand saint Thomas dit adéquation intellectus ad rem, c'est pas suffisant. C'est très bien, c'est très juste, mais c'est pas suffisant. Il faut dire que la vérité au plan spéculatif, c'est l'adéquation, la conformité de ce qui est énoncé par rapport à ce qui est la réalité existante, indiquée par l'énonciation. Ça, vous voyez bien ça, ça c'est très important. Alors, la grosse question au point de vue critique, mais comment se fait-il que vous pouvez atteindre cette réalité? Puisque vous l'atteignez par le concept, mais vous êtes enfermé dans votre concept. Comment se fait-il que vous pouvez dépasser le concept et rejoindre la réalité? Vous êtes vous-même à la fois celui qui juge et celui qui est jugé. Vous voyez l'objection qu'on peut dire tout de suite. Parce que vous êtes vous-même partie et tout, quoi. Celui qui est jugé, puisque c'est vous qui avez énoncé ça, et celui qui juge, c'est vous qui l'atteignez. La réalité n'est pas là pour vous dire « oui, ce que tu dis est vrai ». Alors, comment se fait-il que l'intelligence est capable de dépasser ce qu'elle énonce? Voyez bien le problème, parce que c'est ça qui est intéressant, au plan proprement philosophique. Parce que c'est là où vous comprenez ce que c'est que le réalisme. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous ne savez pas très bien ce que c'est que le réalisme. Vous voyez qu'au niveau de l'appréhension comme telle, vous ne pouvez pas faire ça. Chien. Animal. La raison de bien. Vous restez dans l'intentionnalité. Vous restez dans ce qui est connu. Et l'appréhension ne me donne pas le contact avec le réel existant. Tandis que le jugement, dans un acte parfait d'intelligence, ceci est, mon intelligence atteint le réel. Mais comment atteint-elle le réel? Elle l'atteint. Elle l'atteint par le concept, elle l'atteint par l'énonciation, mais elle est capable d'aller au-delà. Et alors, qu'est-ce qui me fait atteindre le réel? C'est le verbe. Et ça, c'est ça qui est astucieux, c'est ça qui est très curieux. Donc, le jugement d'existence, ceci est, me fait seul comprendre ce dépassement que l'intelligence peut faire, parce que l'intelligence saisit l'être. Or, elle saisit l'être en le concevant comme un verbe. Et c'est en tant qu'elle le saisit comme verbe qu'elle peut l'atteindre dans la réalité. Ce n'est pas en concevant la ratio entis que l'intelligence saisit le réel. Mais c'est en affirmant ceci est. Je dis ça, c'est parce que ça a été l'erreur de la scolastique décadente de ne plus regarder que la ratio entis, oubliant de regarder le jugement d'existence. D'où s'est infiltré immédiatement l'idéalisme. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, parce que ça, c'est capital. Une fois qu'on a saisi ça, on voit très bien comment la scolastique décadente est restée dans l'ordre de la définition, des rationes, croyant que par les rationes, je rejoins le réel. Non. Je rejoins le réel par le point de vue du verbe. Ceci est. Et l'intelligence peut l'atteindre parce que l'intelligence saisit en premier lieu ce qui est. Ens. Primo caditi deitus ens. Tout à fait. Parce que le verbe, vous voyez, se fonde métaphysiquement sur la métaphysique de l'acte. Je ne justifie cette conception que l'intelligence saisit en premier lieu le verbe par la métaphysique de l'acte. Les deux se tiennent. Et si je suis au point de vue critique, j'essaie de comprendre comment mon intelligence dépasse l'intentionnalité. Ce dépassement de l'intentionnalité est capital. Dans l'appréhension, je demeure dans l'intentionnalité. Avec le jugement d'existence, je dépasse l'intentionnalité. Je dépasse la prison dorée. Vous voyez ? Alors c'est là où il faut bien comprendre qu'au plan philosophique, quand on nomme le conceptualisme, c'est de dire qu'on considère que l'intelligence demeure enfermée dans le concept. C'est ça le conceptualisme. Nous sommes tout à fait d'accord qu'il y a des concepts, mais nous affirmons tout de suite que l'intelligence dépasse le concept. Elle s'en sert. Et elle ne s'arrête pas au concept. L'intelligence ne termine pas, j'allais dire, son œuvre d'intelligence, son acte d'intelligence. Elle ne demeure pas enfermée dans l'intentionnalité, c'est-à-dire dans le concept. L'intelligence est faite pour le réel. Et cette affirmation de saint Thomas, quand il dit « Primo cadit in intellectus ens », c'est cela que ça veut dire. C'est que l'intelligence touche en premier lieu ce qui est. Et en le touchant, elle le conçoit. En le concevant, elle le touche. C'est simultané. C'est sûr. Mais elle le touche. Et c'est pour ça que quand elle peut dire « ceci est » et que vous niez la chose, elle est capable de dire « mais non, je vous affirme ceci est. Regardez la réalité. » Donc elle dépasse l'aspect conceptuel. Et c'est ça qui permet seul de comprendre ce que c'est que la vérité. Si vous ne faites pas ça, vous ne comprenez pas ce que c'est que la vérité. Dans ce cas-là, de tout à fait fort. Vous ne comprenez pas l'affirmation de saint Thomas que la vérité adéquatio intellectus ad rem. Ça, c'est une petite formule qu'il faut savoir par cœur. Adéquatio, la conformité, l'adéquation de l'intelligence à la réalité. Alors, de l'intelligence, je précise, de l'énonciation du concept complexe formé par l'intelligence dans l'humain et de la réalité en tant qu'elle est sa mesure. Bon, ça, c'est un rappel. Parce que c'est très important de comprendre ça. Je voudrais que vous le saisissiez avec beaucoup de force. Il n'y a qu'à ce moment-là où vous comprenez ce que c'est que la philosophie réaliste. Le point de vue de la réalité Ouais, c'est pas le concept que vous essayez d'arrêter, mais ce n'est pas en s'arrêtant au concept. Si vous arrêtez au concept, vous restez dans l'intentionnalité. Ce jugement d'existence est premier. Qu'est-ce qui vient après comme jugement? Comme jugement type. Je prendrai tout de suite la saisie des principes. Les principes propres de la philosophie, la saisie de la nature, la saisie de l'âme, la saisie de la substance, la saisie de l'eidos, les principes, tous les principes propres. Pour les énumérer, ils ne sont pas tellement nombreux, hein? Quelques grands principes. Comment vous énoncez un principe? La nature, c'est le principe immanent de ce qui est mu en tant qu'il est mu. Là, vous énoncez un principe. Vous énoncez un principe. Quelle est la vérité du principe? Parce que le principe, je le saisis au terme d'une induction. Quand vous dites la nature, c'est le principe immanent de ce qui est mu en tant qu'il est mu. Quand vous dites ça à un psychanalyste, à un psychologue enfermé dans sa psychologie freudienne, il vous dit, mais prouvez-le-moi que c'est ça. Quand vous dites la substance, c'est la cause selon la forme de ce qui est en tant qu'il est. Le psychanalyse, prouvez-moi que c'est ça. Et vous êtes complètement démunis. Parce que vous ne pouvez pas montrer la substance. Quand vous dites cette craie existe, je vous dis que cette craie existe. Bon, si vous le niez, je dis venez, venez, touchez-la. Et vous verrez que ce n'est pas un petit fantasme. Qu'elle existe. Tandis que quand vous dites la nature, c'est principe immanent de ce qui est mu en tant qu'il est mu, je ne peux pas le toucher. Je ne peux pas vous la montrer, moi. Il ne faut pas vous la faire sortir comme ça. Quand je vous dis que la substance, c'est principe selon la forme de ce qui est, en tant qu'il est, je ne peux pas vous le montrer non plus. Si vous ne le saisissez pas, je peux rien dire, je peux le répéter. Alors vous me dites, mais c'est de la blague tout ça. Ça c'est. Moi je suis positiviste. Je ne crois que ce. Alors évidemment, un positiviste, quelle est la vérité pour un positiviste? Demandez à un positiviste s'il cherche la vérité. Un savant, il cherche la vérité. Il dira oui, pour moi la vérité, c'est ce que lorsqu'une hypothèse est vérifiée, elle est vérifiée. Et quand l'hypothèse est vérifiée, je dis c'est vrai. Et quand l'hypothèse est-elle vérifiée, c'est lorsque ce que j'énonce dans l'hypothèse est conforme à la réalité expérimentée. Donc c'est vérifié. Vous voyez, vous retrouvez le petit schème conformité de ce que vous énoncez avec la réalité. C'est la réalité qui reste mesure. Évidemment, c'est moins immédiate que dans le jugement d'existence. Parce que, au fond, ce que vous demandez à la réalité, c'est de ne pas rejeter votre hypothèse. Uniquement ça. Vous ne demandez pas à votre hypothèse de dire la réalité adéquatement. Mais vous demandez simplement à la réalité expérimentée de ne pas rejeter votre hypothèse. C'est très très curieux du reste. Donc c'est mesure extrinsèque. C'est quand même mesure. Bon, ça c'est positiviste. Mais pour un philosophe qui saisit les principes au-delà de ce qui est immédiatement mesurable. Pour vous, évidemment, ça peut être un mode d'opinion. Vous dites, oui, oui, la substance est bien la cause selon la forme de ce qui est. On nous l'a dit au cours. Et puis quand j'ai regardé Aristote, je l'ai trouvé dans Aristote. Je vous affirme, Aristote le dit. Donc c'est vrai. Vous voyez ce genre de vérité? Qu'est-ce que c'est que cette vérité? C'est la vérification d'une opinion. La vérification d'une opinion. J'ai reçu ça. Le cours, le professeur me l'a dit. Il renvoie Aristote. C'est vrai, je le trouve dans Aristote. Donc, c'est vrai. C'est la vérification d'une opinion, ça. C'est pas plus. C'est déjà quelque chose. C'est une opinion que vous avez reçue en suivant le cours. C'est une opinion que vous êtes formée en lisant Aristote. Et vous pouvez vérifier. C'est pour ça que dans un livre scientifique, si on énonce ça, on met tout de suite en note la référence. Et on dit la référence. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire mettre la référence? Ça veut dire renvoyer au bouquin, au livre où il est énoncé ça. Et ça vous donne une vérification. Cette vérification de voir que ça a été dit. Et ça a été dit par un professeur. Ça a été dit par un vieux philosophe. Des maîtres vivants et des maîtres morts, comme dit Topfer. Hein. Des maîtres vivants et des maîtres morts. C'est les références. Donc c'est l'autorité. Si ce que je dis est conforme à l'autorité, mon opinion est vraisemblable. Je dirais vraisemblable. Je ne dirais pas vrai. Mon opinion est vraisemblable. Elle a audience dans le milieu où l'autorité...